16h30, 17h, Marc et Maggy sur Radio Shalom.
Bonjour, vous êtes sur Radio Shalom 94.8 dans l'émission « C'était pas prévu au programme ». Je suis seule, je ne suis pas avec Marc aujourd'hui, il n'est pas là, il est à Faune, donc on lui fait un gros gros bisou. Mais j'ai mon amour de Arnaud qui est là avec moi, qui me soutient. Bonjour Arnaud, j'espère
toujours,
que ouais, toujours il est là. Et aujourd'hui je suis ravie parce que j'ai deux personnes dans le studio avec moi, je devais en avoir qu'une, mais j'en ai deux. Du coup il a pris la place de Marc. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Tu vas bien, tu peux te rapprocher, tu vas
oui,
pouvoir parler avec nous
bien.
Aujourd'hui.
Ça
alors.
Va très bien.
Et je suis ravie parce que tu m'as appelé il y a quelques temps pour me dire que tu avais une très bonne idée comme invité pour moi et je suis ravie de vous recevoir. J'ai Cyrielle Claire avec moi, bonjour.
Bonjour Maggy.
Ça va?
Oui, très
voilà.
Bien.
On est ravis, on a Cyrielle. Moi, je sais que je suis d'autant plus contente et honorée parce que j'ai vu beaucoup de vos films. Je vous connais quoi, à travers votre parcours professionnel. Vous êtes une artiste pour moi brillante. Dans beaucoup de pièces comme L'amour de l'amour ou encore Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. Vous brillez aussi beaucoup dans de nombreux films, films et téléfilms d'ailleurs, français mais aussi à l'international. Puis vous entrez à la Comédie Française pour un rôle mémorable d'Hélène dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et puis vous voyagez beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis vous interprétez beaucoup d'œuvres d'auteurs, Oscar Wilde, Woody Allen. Je crois qu'il n'y a pas une famille française, en tout cas, qui ne sait pas ou qui n'a pas vu un de vos films ou un passage de vous dans un film, parce que vous êtes vraiment une actrice française, je trouve, populaire, à mon goût.
Ah,
vous
merci,
êtes d'accord avec
gentil.
Moi ou pas? Un peu, quand même.
Oui, 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 tout à fait.
C'est ce que vous, non, mais c'est ce que vous devez ressentir. Est-ce que je pense
oui,
que le public vous donne en
oui.
échange?
Et puis, j'ai une carrière assez hétéroclite. Donc, il y en a qui m'ont vu au théâtre, d'autres au cinéma,
bah, voilà.
Et d'autres encore.
C'est pour ça que je dis populaire. Vraiment,
oui.
Pour moi, c'est ça. C'est quand on arrive à faire les deux. Vous avez déjà chanté?
Ah ben, précisément, dans la pièce que je vais jouer là à Avignon.
Voilà, alors
oui,
moi, voilà, c'est
on
pour
va
ça.
En parler.
On va en parler, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous reçoit aujourd'hui, parce que je suis ravie. Vous allez aller à Avignon du 3 au 21 juillet au Théâtre des 3S, dans un spectacle où vous incarnez Marlène Dietrich, et je trouve que ça vous va très très bien, et qui s'appelle d'ailleurs Marlène Dietrich, Confession intime. Et vous êtes seule en scène en chantant et en jouant la vie de Marlène.
Absolument. Alors évidemment, chanter. Alors je chante comme une actrice qui chante, hein,
oui.
À la Marlène.
À la Marlène, qui parle en chantant.
Voilà, qui interprète surtout.
Interprète.
Voilà,
un peu comme Gérard Depardieu quand il avait fait...
Oui, sur Barbara.
Voilà, exactement.
Oui,
je vois très bien. Oui.
Exactement. Mmh. Et donc, parce que c'est toute une partie, c'est la deuxième carrière de Marlène, qui après le cinéma, Hollywood, toute cette grande période, se retrouve à... Par un hasard, un concours de circonstances, on lui demande de venir chanter à Las Vegas. Alors au début, elle dit, mais non, je ne vais pas aller chanter dans un casino, ce n'est pas Marlène. Donc elle envoie un peu balader ce fameux Ben Miller du Sahara Palace qui lui propose ça. Et puis après, elle dit, Madame Dietrich, vous savez qui est venu chanter chez moi quand même? Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, The Rat Pack, pour ceux qui connaissent.
Ouais.
Et donc, et puis, vous serez très bien payé. Hein. Et parce que c'est vous serez payé mieux que Frank Sinatra.
Wow.
Et alors là, elle fait quoi? Mieux que Frank Sinatra. Et c'est vrai que c'est une période où, à Hollywood, elle a quelques rides au coin des yeux. Elle a déjà 45 ans passés. Et elle fait des rôles secondaires. Donc, elle se dit, oui, j'aurais peut-être pas beaucoup d'occasions. Il faudrait qu'elle fasse 4 films dans l'année pour gagner ce qu'il lui propose.
Oui.
Et finalement, elle accepte.
Oui.
Et ça va déboucher sur une énorme carrière sur les scènes de musical du monde entier. C'est extraordinaire.
Et elle a failli dire non, franchement.
Elle a failli dire non.
Mais
alors, par contre, alors là, c'est là où c'est très Marlène Dietrich. C'est que la première fois, elle va chanter comme ça. Alors oui, il lui dit, mais vous, j'ai chanté 20 minutes seulement, hein, parce qu'il faut qu'ils aillent jouer au casino. Hein, ils sont pas là pour...
L'idée, c'est ça, bien sûr.
Et alors, elle s'est dit, bon, d'accord. Et elle s'est fait faire une robe... avec qui lui a coûté la moitié de son cachet, c'est-à-dire une robe plus couture que haute couture, et sensationnelle, si bien que quand elle arrive sur scène, tous les joueurs de casino ont la mâchoire qui tombe, vous savez, face au Tex Avery, là, comme ça. Ouais. Et c'est une apparition absolument sublime. Et avec sa voix rauque, comme ça. Et
elle son interprétation. Aussi, hein.
Et voilà. Et son charme, parce qu'elle veut charmer tout le monde, les poignées de porte, les chaises, tout le monde. Et surtout les hommes. Et donc, mais elle était très aimée des femmes aussi. Ça, c'est une bonne chose.
Ouais.
Et donc, elle a un succès, mais phénoménal. Et après, alors elle chantait que les chansons qu'elle chantait dans ses films, elle n'avait pas du tout de répertoire.
Oui, c'est ça.
Et après, voyant ce succès incroyable, elle demande, alors elle chantait les chansons de Friedrich Hollander, et puis après c'est Cole Porter qui commence à lui écrire des chansons, et bien d'autres. Et là, parce que et donc son répertoire s'agrandit, et elle fait une véritable tournée dans le monde entier, sur les scènes du monde entier, pendant plus de 15 ans.
C'est incroyable quand même cette histoire.
Extraordinaire, deuxième
carrière.
Et avec
sa voix, elle a une voix particulière, comme ça, rauque, comme ça. Elle chante un peu en parlant, finalement, elle a ce côté quand même... J'adore, moi, sa voix. Elle a une voix sublime. Ah,
fantastique.
Vraiment.
Et c'est une interprète.
C'est ça, voilà. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure.
Interprète.
Une interprète, tout à fait.
Elle interprète le sentiment. Elle porte le sentiment avec son timbre très, si particulier. Et avec, parce que c'était quelqu'un de très profond, Marlène. Et dans le spectacle que je joue et que j'ai écrit, je me suis appliquée à faire ressortir sa profonde humanité.
C'est bien.
C'est parce que ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi, quand on m'a demandé de jouer Marlène Dietrich, j'ai ouvert des grands yeux, j'ai fait un grand sourire.
Pourquoi
j'ai fait,
moi?
Ah oui, bah, d'accord. Mais c'est pas comme si j'avais rêvé toute ma vie de jouer Marlène, parce que je la connaissais pas du tout.
Ouais. Mais vous avez dû faire beaucoup de recherches, parce que pour interpréter un seul en scène de Marlène Dietrich, faut aller chercher très très loin quand même. Hein.
Exactement. Et là, j'ai découvert, parce qu'on a une idée de Marlène, on dit qu'elle était très dure avec sa fille, et puis c'était quelqu'un de très exigeant, très autoritaire. Oui, elle était exigeante, parce que avec elle-même aussi, et avec tout le monde, hein, parce qu'elle était très professionnelle. S'il y en avait un qui faisait mal son boulot...
pour ça qu'elle est arrivée là où elle était, d'ailleurs.
Voilà,
de toutes les manières.
Et du coup, les gens restent avec cette idée un peu superficielle de « Ah, elle était dure, elle était difficile et tout. » Mais il y avait des bonnes raisons. Et puis, je me suis plongée aussi dans les témoignages de gens qu'elle aimait beaucoup, comme par exemple Hemingway, Noël Coward et tout, qui ont tous dit que c'était une personne d'une générosité incroyable, intelligente, ça on le sait, lucide également, mais voilà, je me suis dit, tiens, eux, ils parlent de quelque chose, d'un autre sentiment.
Ouais.
Et je me suis dit, ben, moi, je vais essayer de montrer cet aspect-là de elle également.
Ben, c'est une bonne idée parce que, du coup, ça donne beaucoup de légitimité à votre seule en scène, c'est très bien. Alors moi, j'ai envie de savoir quelque chose, justement. Quels sont, maintenant que vous avez été faire beaucoup de recherches et, sur Marlène Dietrich, quels sont les points communs que vous avez avec elle?
Ah, vous avez raison. J'ai essayé de trouver des points communs comme ça. Alors, on a toutes les deux les yeux verts. On est toutes les deux filles de militaires.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, je sais pas, j'avais une petite liste.
Vous avez
comme
une très jolie silhouette. Vous la voyez pas, Cyrielle, mais elle a une très jolie silhouette. Un peu à la Marlène Dietrich. Hein, ça aussi, ça
c'est vrai,
quand même
important. J'ai gardé encore ma jolie silhouette.
Ah, oui.
On est toutes les deux fans de la qualité de la mode. Voilà, de la mode, mais pas juste de la mode pour être à la mode. Non, non. De la qualité du vêtement. Vous savez que Marlène, elle déplaçait des montagnes pour avoir une dentelle très précise qu'elle avait repérée dans un endroit. Il fallait pas que ce soit une autre, il fallait que ce soit celle-là. Et c'est vrai que ça m'a amusée parce que moi aussi, je suis très, très précise et j'adore les choses.
Les belles
très
choses.
Voilà, les très belles choses et tout. Non, mais il y a plein d'autres points communs. Alors, par contre, il y a aussi des petits points. Ah oui, on a toutes les deux aussi... on est toutes les deux fans de, puisque c'est le tennis en ce moment, Roland Garros, on est toutes les deux fans de Björn Borg.
Ah,
bon,
oui.
Maintenant, c'est une autre époque. Mais moi, depuis l'adolescence, quand j'étais adolescente, mais j'étais fan de Björn Borg, et j'ai découvert qu'elle aussi. Et également un autre artiste que j'adore, c'est Mikhail Baryshnikov.
Ah,
et elle aussi, Baryshnikov.
Ah oui, Baryshnikov, pardon. Oui, bien
Mikhail
sûr.
Baryshnikov.
Misha. Donc elle aussi, elle est...
Et elle aussi était complètement fan de Baryshnikov.
Ah, ouais.
Donc on a quand même des points communs dans les... Elle adorait aussi Marlon Brando, qui est pour moi un des plus grands qui ait jamais existé.
Ouais.
Et puis voilà, donc il y avait plein de points communs aussi. Alors par contre, je me suis dit, elle est imbattable sur le plan de ses amants. Ah, alors là, je ne veux, veux pas être indiscrète. Hein. Là,
je ne pourrais
là,
pas jamais la rattraper. Non. Elle a eu un seul mari, mais elle a eu un paquet d'amants.
Ah, oui.
Et là, elle est absolument irrattrapable.
Bon, alors ok. Bon, ben, ça sera... Est-ce que vous en parlez dans la pièce de ça?
Ces
amants, bien sûr. Ouais.
Les hommes dans la vie de Marlène, c'est
très
un
important.
Gros sujet.
D'accord.
Alors, vous savez, j'ai imaginé, je me suis dit, comment je vais faire... apparaître les hommes.
Ouais.
Et j'ai imaginé des grandes poupées en chiffon qui vont de ma tête jusqu'à mon nombril, comme ça que je peux cajoler, câliner.
Ah, c'est sympa.
Et il y a à peu près 7 poupées comme ça.
Déjà, ça nous donne un peu le nombre.
Oui, hein, voilà. Parmi les hommes les plus importants.
D'accord.
Donc, et je peux les cajoler et je les fais apparaître comme ça.
C'est sympa, c'est original.
Voilà.
Alors,
on
va faire une petite pause. Pub, on revient tout de suite avec Cyrielle Claire, mon invitée d'aujourd'hui.
Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Vous êtes toujours sur Radio Shalom dans l'émission C'était pas prévu au programme. Je suis toujours avec Cyrielle Claire. On se régale parce qu'elle nous dévoile un petit peu les coulisses de cette jolie pièce que vous allez jouer à Avignon du 3 au 21 juillet au théâtre des 3S où vous allez raconter Marlène Dietrich. Alors, je vous ai coupé la parole avec les pubs. C'est pas toujours très. Très, très, très joli de faire ça, mais on est obligé. Hein,
je comprends,
voilà,
vous comprenez.
Donc, vous nous disiez quoi, là? On était parti sur quelque chose encore sur Marlène.
Alors, je disais que dans le spectacle, j'ai choisi de parler de la vie de Marlène de 1930 jusqu'à 1973. 1930, c'est le tournage de L'Ange Bleu.
Oui,
c'est le premier film parlant tourné en Allemagne.
Hein. Oui, oui.
C'était vraiment l'avènement du parlant.
Oui.
Et 1973, c'est sa dernière représentation sur une scène en France. Et c'était au Théâtre de l'Espace Pierre Cardin.
Ah oui.
Voilà, donc 43 ans
toujours, d'ailleurs.
De la vie de Marlène en 1/1
Oui, il faut le faire quand même.
C'est un gros challenge.
Vous
me demandiez les costumes.
Combien de costumes? Oui, vous m'avez répondu en off, mais ça c'est intéressant pour toutes les femmes qui
écoutent. J'ai 10 changements de costumes.
Incroyable.
10 changements de costumes, c'est énorme.
Vous avez...
On est dans la loge de Marlène, donc j'ai un paravent sur scène avec mon habilleuse et elle m'habille... Quand je dois changer complètement, je suis derrière le paravent. Et si c'est juste pour enfiler une veste, donc elle me change à vue.
C'est génial.
Voilà. Oui, ça va très, très vite. Il y a beaucoup de rites parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur Marlène.
Mais oui, j'imagine. Mais on va reparler à la fin de l'émission. Alors moi, on va essayer de faire un peu connaissance aussi avec vous, en tant que femme, en tant qu'actrice. Moi, je voudrais savoir si vous pouviez donner ou penser à une chanson qui pourrait résumer un petit peu votre carrière artistique. Mais comme ça, si ça ne vous vient pas, c'est pas grave. Une chanson qui vous vient comme ça. Laquelle ce serait, si vous aviez une chanson qui pourrait... Voilà, qui vous ressemble. Ce serait quoi?
Alors là, je n'ai jamais réfléchi en ces termes.
Non, mais c'est pour ça que c'est...
Mais oui, c'est intéressant. Non, moi les chansons... quand je prépare un spectacle, il y a deux auteurs, deux interprètes que j'écoute.
Oui.
C'est Barbara.
Voilà.
Et Brel.
Et ben voilà. Comme ça, on sait un peu sur quoi vous vous dirigez.
Voilà, dans tout cet univers, pour moi, c'est extraordinaire. Ça me nourrit en profondeur d'une façon extraordinaire.
Ça vous enveloppe aussi, je
trouve. Oui,
Barbara,
exactement.
Et je trouve que c'est des chansons qui enveloppent. Est-ce que la famille, c'est important pour vous, Cyrielle?
Absolument. Ouais. C'est fondamental.
C'est fondamental.
Ah oui. Je trouve que c'est une chose qui est... c'est une... Il y a des valeurs familiales qui sont très importantes. J'ai la chance d'avoir une famille aimante. On s'entend presque tous bien.
Il y a toujours un petit canard.
Oui, bien sûr. Mais je trouve que la famille, c'est un point d'ancrage qui est vraiment important. Et ça m'est arrivé à des moments où j'étais un peu déstabilisée, de retourner un petit peu aux sources. Et ça fait du bien.
Ça fait du bien. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que vos parents ou quelqu'un de très proche de votre famille vous a transmis et que vous, aujourd'hui, vous appliquez encore pour vous, mais aussi pour vos enfants, parce que vous êtes maman. Est-ce qu'il y a quelque chose?
Oui, bien sûr.
Et c'est quoi?
Écoutez, oui, il y a des valeurs fondamentales qu'on m'a transmises, c'est-à-dire comme l'honnêteté, le courage. Qu'est-ce que je pourrais dire encore?
Connaître, je dirais le travail, la persévérance, parce que pour faire le spectacle que vous allez faire, je pense que le travail et la persévérance vous conviennent aussi, et c'est des valeurs qu'on transmet en général, ça aussi.
Oui, voilà.
C'est
voilà.
Vrai,
et
hein.
Et puis moi, après, je me suis nourrie de plein de textes et d'auteurs, et si vous voulez, ce que j'aime, ce que j'ai essayé de transmettre à mon fils, c'est aussi l'amour. L'amour, c'est-à-dire, et l'amitié fait partie de l'amour. Moi, j'ai une grande valeur. J'apporte une grande. J'attache une grande. Ouais. J'attache. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Merci Maggie. J'attache une grande valeur à l'amitié, qui est une forme d'amour très importante.
C'est vrai.
Et j'ai la chance d'avoir des sœurs de cœur où l'amitié là est très très profonde. Et je vois que mon fils, il a gardé des amitiés d'adolescence. Alors 5-6, hein, c'est déjà énorme.
Mais c'est beaucoup déjà.
C'est déjà énorme. Et ses amitiés de fac, c'est-à-dire que à un âge où on est très perceptible à plein de choses, on est en train de se former, où on a besoin d'une certaine solidarité justement avec les autres, où on se découvre à travers les autres. Et ça, ça me réjouit, de voir que lui aussi il a un groupe d'amis solide. Et ça, c'est formidable, je trouve. C'est précieux.
Vous avez raison. Et moi, j'avais entendu une phrase, et je me souviens plus de qui elle était, cette phrase, mais je la trouvais très jolie. L'amitié, c'est de l'amour en toute liberté. J'ai trouvé que c'était très joli. C'était une très jolie définition des relations amicales qu'on pouvait avoir, qu'elles soient avec un homme ou avec une femme. Je trouvais que c'était une belle définition. Est-ce que vous aviez un petit surnom quand vous étiez petite?
Oui, je l'ai toujours.
J'adore. Et c'était quoi?
Sissi la balafrée.
Sissi.
Non mais je vous jure, non mais parce que j'étais un petit peu garçon manqué, mignon, kamikaze et tout, et j'avais toujours une balafre, le nez écorché,
c'est trop mignon,
un genou traviole, ou encore maintenant ça m'arrive de faire des chutes, parce que le problème c'est que je regarde pas toujours où je mets les pieds, j'ai toujours la tête dans les nuages, je regarde la couleur du ciel, les petits oiseaux dans les branches, et par les temps qui courent, et vu l'état des trottoirs de Paris, c'est dangereux.
Oui, alors là oui, ça vous savez ça.
Donc, j'ai payé très cher parce que je me suis cassé la jambe assez récemment.
Sissi la balafrée, je trouve ça très
bien.
C'est très mignon, J'avoue que on l'avait pas eu encore comme ça.
Personne ne l'a encore demandé. C'est une confidence.
C'est une confidence.
Spéciale pour vous.
C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai des petites questions comme ça, et j'ai une autre question qui est un peu personnelle et qui nous fait toujours sourire parce que c'est amoureux. Comment gagnez-vous votre argent de poche petite?
Ah bah oui, ça je peux, en faisant du babysitting.
Ah bah voilà, parce
à partir de 14 ans, j'ai commencé à faire du babysitting, où je gagnais 5 francs.
Oui, c'était des francs, même aussi, je connais des francs. Hein.
Ouais. Et après, en vacances, j'avais un mois où je passais chez mes grands-parents, bord de la mer, et un mois où je m'occupais d'enfants aussi. J'ai toujours adoré m'occuper d'enfants. Bon, et c'était donc ça me payait des vacances au bord de la mer, mais je gagnais 3 francs 6 sous. Mais c'est quelques sous-là que je gagnais comme ça. Ça, c'est quand j'étais petite, adolescente. Ça m'a permis de... J'ai commencé à économiser là, à 14 ans, pour pouvoir m'acheter un appartement. Vous vous rendez compte?
C'est dingue. Mais c'est là que vous êtes devenue adulte dans votre tête.
Mais parce que
j'ai eu une prise de conscience.
Pour moi, c'était très important d'avoir un toit. Un toit sur ma tête. Et c'est vrai que... Parce que je voyais... je sais pas, j'avais cette image, je me dis il faut que j'ai un toit sur ma tête, que je gagne moi avec mon argent à moi, et voilà. Et après, j'ai donné des cours de natation.
J'adore. C'est pour ça que j'ai posé cette question.
Vous avez raison, je trouve ça, j'en parle pas souvent. Ah,
mais c'est intéressant.
C'est intéressant. Bah oui.
Mais tel que vous me voyez là avec mes petits bras, je suis maître nageur sauveteur, diplômée d'État. Mais j'avais les bras trois fois plus larges que ça. Mais j'ai fait les championnats de France universitaires en natation.
Ben oui, tu vois, de l'argent de poche, on arrive à avoir beaucoup d'informations sur nos invités.
Moi, je ne
me
mêle que si Cyril est là, sinon je n'ose pas.
C'est trop sympa, j'aime bien. Mais alors, une autre question qui va déboucher sur des petites curiosités sur vous. Vous êtes gourmande?
Ah oui, très.
Très gourmande.
Très.
Alors, il y a une question, c'est la seule question que je pose à tous mes invités. Je crois que tu as eu droit aussi, Antonin. Si ce soir, vous deviez organiser un dîner chez vous, quel serait le casting idéal de vos invités, en sachant que vous pouvez inviter des gens connus, pas connus, famille, amis, vivants, morts, voilà, vous faites un réel plaisir ce soir et vous invitez des gens que vous avez envie d'avoir à table avec vous. Qui vous inviteriez?
T'invites Marlène.
Marlène Dietrich, Marlon Brando. on va ressusciter les morts.
Ça serait intéressant.
Voilà. Leonardo DiCaprio, qui je trouve est vraiment un grand successeur de Marlène. Et puis un homme extraordinaire que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui est Bertrand Piccard. Est-ce que vous savez qui est Bertrand Piccard?
Non.
Bertrand Piccard, c'est lui, pour moi, c'est le héros du 21e siècle. D'accord. C'est lui qui a imaginé, construit et volé sur cet avion complètement sans électricité, sans gaz, Solar Impulse.
Ah, je
savais, c'est cet avion qui a,
oui,
qui a,
oui,
des ailes avec des capteurs solaires,
oui,
et il a fait le tour du monde, avec, rien que avec l'énergie
ailes,
naturelle,
solaire,
l'énergie du solaire. Okay. Voilà. Alors
t'imagines,
pour moi,
le dîner,
c'est vraiment...
ça peut être sympa. Ah,
moi, j'ajouterais un ami, un de tes amis, c'est, oui, Pierre Cardin.
Ah, parce que évidemment,
je le rajouterais aussi, parce que c'est lui qui lui a soufflé l'idée quand même de Marlène,
oui,
Dietrich.
Voilà, c'est lui qui a voulu. Ouais, exactement. Bravo, Antonin. Oui, oui, bah bien sûr, Pierre Cardin, c'est.
Je peux. Je peux me permettre.
Et puis René de Obaldia, c'est mes. C'est mes années de mes amis de cœur. Et Jean Dormesson.
Ah, mais oui.
Ah, moi, j'ai plein d'académiciens.
Mais oui,
ça va être un dîner. On va pas se coucher tôt.
Mais moi, j'ai envie de vous souffler un autre nom. Mais je ne sais pas. Jean-Paul Belmondo.
Bah, évidemment,
Le professionnel. Parce que Cyrielle était dans le professionnel.
Oui, mais oui, et Jean-Paul,
magnifique,
qui est un amour d'homme et quelqu'un de vraiment fidèle en amitié. Alors, lui, vraiment, la valeur de l'amitié, c'était vraiment quelque chose de.
Pareil. Donc, vous voyez le dîner ce soir chez Cyrielle, ça pourrait être sympa.
Ah oui, vous avez vu.
Là,
hein,
j'avoue que.
Moi, je fais le service.
Oui, bah, écoute, moi, je me demande si je ne vais pas vous aider à faire quelque chose. Je ne sais pas, peut-être à manger.
Mais vous serez invité
ou
aussi,
je ne sais pas.
Bien
sûr. Mais vous voyez, c'est ce genre de questions que j'aime bien.
Oui,
parce
vous avez
que
raison.
Je trouve que ça, vraiment, ça montre des petites subtilités de la personnalité de nos invités. Mmh. Alors, il va y avoir encore une pause. Malheureusement, ça va être pour un flash info. On est obligé. Donc, on attend Pierre Gandus pour le flash et on revient après avec Cyrielle pour encore, on va dire une bonne 15 minutes avec elle parce qu'on a encore plein de petites choses à découvrir. À tout de suite.
Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Heureusement que le studio n'est pas très très grand parce que pour reprendre l'antenne vite fait comme ça, il faut le faire quand même. Hein.
Ouais,
hein,
bravo.
C'est vrai, bravo, hein, je suis forte, hein, quand même. Alors après ces bonnes nouvelles, hein. Excusez-moi, mais là ça me fait même rigoler nerveusement, c'est horrible parce qu'à chaque fois ça me fait ça depuis le 7 octobre. Je reprends cet échange entre nous, Cyrielle, que je trouve absolument délicieux, puisque nous étions en train de dîner chez vous.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, avec du beau monde.
Hein. Voilà, avec du beau monde. Hein. Donc, alors, hors antenne, je lui ai même demandé si elle connaissait Delon. Mais bien sûr, elle connaît Delon, elle a joué avec Delon. Et Delon a été une personne charmante avec vous, vous m'avez dit.
Très professionnel.
Très professionnel.
Ouais,
non, j'aime bien quand on a des petites histoires comme ça, des petites révélations un peu indiscrètes sur le comportement des artistes avec les femmes, ou l'inverse, hein, même, parce que c'est tellement important aujourd'hui. Alors dites-moi, autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui pourrait vous faire dépenser de l'argent sans compter, tellement vous êtes contente de dépenser cet argent pour ça ? Elle est drôle, ma question. Quelque chose qui vous fait tellement kiffer, hein, excusez-moi l'expression, mais que vous vous dites, allez, moi, je m'en fous.
Je vois pas trop quoi.
Ouais.
Mais
c'est bien, pas dépensière, alors. Hein. C'est bien, ça. Ça
non,
c'est,
mais
pas...
c'est-à-dire que j'essaie de gérer mon petit budget.
Peut-être pour aller au théâtre.
En bonne mère de famille.
On achèterait des places de théâtre.
Non, mais là, c'est pas tellement
non,
c'est pas...
Non, parce que maintenant qu'elle a parlé un peu, j'avais pensé à quelque chose. Moi, c'est pour ça.
Ah, vous avez pensé à quoi, vous?
Justement, à des beaux vêtements, des belles choses qui vous...
Non, même pas.
Pas.
Ah non,
même
non,
pas.
C'est pas ça qui fait...
Non,
peut-être un voyage, peut-être. Ouais, plutôt. Ouais. Un voyage assez extraordinaire où je pourrais emmener des amis, voilà, qui n'auraient pas les moyens de s'offrir ce voyage. Si moi, j'avais un budget pour le faire, oui, j'aimerais faire partager une aventure comme ça de voyage extraordinaire.
Ah, voilà. J'aime bien. C'est joli. J'aime bien votre réponse. Quel est le plus joli cadeau que vous avez reçu dans votre vie?
Ah, bah, c'était ma sœur qui m'a offert un très beau cadeau.
Ouais.
Elle m'a offert un petit chien.
Oh, c'est mignon.
Oh là 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 là.
C'est
quand j'étais encore
cadeau.
Étudiante, tout d'un coup, elle arrive avec une boule de poils comme ça. Oh, et c'était le bonheur. C'est un petit Shih Tzu que j'ai adoré, qui a vécu avec moi pendant 16 ans et demi. Hein. C'est énorme.
Quand même.
J'étais encore étudiante quand elle m'a offert ce chien. Et je l'ai trimballé partout, après au théâtre, dans ma loge. Enfin bon, je l'ai même emmené au cinéma. Enfin, je l'emmenais partout, dans un petit sac, je la planquais. Ça, c'était merveilleux. C'était le plus beau cadeau de ma vie, je crois.
Ah, oh, c'est
et puis
mignon.
Sinon, le plus beau cadeau que la vie m'a fête.
C'est votre fils.
C'est mon fils.
Eh oui, bien
vous
sûr.
Vous êtes une mère aussi,
bah oui.
N'est-ce pas, Maggie?
Mais oui, voilà, c'est normal. Ça, c'est quelque
évidemment,
chose que...
Évidemment, mon plus beau rôle de maman. Enfin,
mais
voilà.
Oui.
C'est vrai que c'est assez, quand on a le privilège de pouvoir donner la vie, c'est extraordinaire. Voilà.
Bien sûr, c'est vrai. Et est-ce que vous avez un souvenir de scène que vous n'oublierez jamais? Sur une scène ou pendant un tournage de film, quelque chose qui vous a marqué en bien ou en mal, ou en drôle, ou en drôlerie aussi, mais que vous oublierez jamais.
Oh, bah, il y en a plein.
Il y en a plein, j'imagine.
Ah oui, il y en a plein. Mon premier film que j'ai tourné en Inde, qui est un film de Jodorowsky, en Inde, où il faisait 45 degrés à l'ombre, et où je tournais avec des gros éléphants.
Voilà, oui.
C'était extraordinaire. Oui, oui, il y a eu plein d'épisodes, là, assez exceptionnels. Aussi, la première fois, aussi, sur une scène de théâtre, au Théâtre Marigny, un théâtre de 1000 places. Mmh. C'était mon tout premier engagement professionnel. Et un jour, évidemment, j'étais... Je ne pouvais pas parler sans dire un mot. Je disais, pas possible. Je pleurais tellement. J'ai dit, comment je vais faire? Et Jean Le Poulain, qui était à mes côtés, il m'a dit, il m'a mis quelques petites gouttes d'huile essentielle sur un sucre. Puis il m'a dit, de toute façon, tu vas voir, dès que tu vas rentrer sur scène, ça va bien se passer. Je dis, c'est pas possible. À chaque fois, je dis un mot. Et alors, et c'est vrai que c'est la magie.
Ouais.
Tout d'un coup, vous mettez le pied sur scène.
On oublie tout. Hein.
Et voilà. Et je suis sortie de scène, ça a repris comme ça la quinte de tout. Oui, il se passe quelque chose avec les endorphines qui font que tout d'un coup, c'est suspendu, tout s'arrête. Et là, j'étais là, je dis, ah oui, ma voix, ça va, j'arrive à parler sans tousser, c'est extraordinaire. Hein. Mais là, j'ai eu tellement peur, c'était mon premier spectacle, une énorme salle où il fallait se faire entendre. Donc, mais bon, ça s'est finalement bien passé, il faut avoir confiance finalement.
C'est vrai, c'est vrai. Et dites-moi, alors vous êtes beaucoup interviewée, parce que vous avez quand même une belle et longue carrière, et qui n'est pas terminée en plus. Donc,
ah merci, hein,
ça c'est vrai, bah, oui, en plus qui n'est pas terminée. Oui, mais est-ce qu'il y a des critiques qui vous font plus plaisir que d'autres?
Alors, il y a une chose qui m'agaçait quand j'étais jeune, on disait la ravissante Cyrielle Claire. Oh là là, ça, alors ça, je détestais quand on dit ça. Non, parce que ravissante, etc. J'aurais aimé qu'ils disent la géniale. Non, je ne suis pas géniale. Non, mais ça, c'est pas un adjectif qui me convient non plus. Mais je ne sais pas, c'était un petit peu convenu et c'était un adjectif qui me cantonnait à une apparence.
Oui, je comprends.
Et ça m'agaçait un petit peu.
Ouais.
Parce que toute ma vie, d'abord, j'ai jamais été quelqu'un qui se regardait beaucoup dans les miroirs. Et d'ailleurs, quand je regarde des photos maintenant, je dis, oh, ah oui, quand même, pas mal. Il y a 20 ans, quand même, j'étais pas mal.
Mais on vous a comparé aussi à Grace Kelly.
Oui, à Grace Kelly, absolument. C'est un beau compliment.
Ouais, c'est un compliment. Mais je l'ai lu plusieurs fois dans plusieurs endroits qu'on vous comparait physiquement à Grace Kelly.
C'est vrai, c'est vrai, c'est arrivé. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais attachée, moi, à mon apparence. D'abord, moi, chez moi, dans ma famille, on ne m'a jamais dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es jolie !» Donc, je ne me rendais même pas compte de ce que je représentais. Honnêtement, je ne me rendais pas compte.
Ça, ça joue beaucoup, je trouve.
Et oui, voilà. Donc, c'est maintenant, avec du recul, quand je regarde les photos passées, on dit, bah oui, pas mal, c'était pas mal.
Bon,
et puis, de toute façon, il faut cultiver autre chose en soi, hein, parce que la beauté, c'est comme tout, ça passe.
Exactement, ça
passe. Donc, si on n'a pas autre chose, on est très malheureux.
Exactement, c'est vrai. Et alors, du coup, toujours dans les interviews, est-ce qu'il y a des questions que vous n'aimez pas? Parce que parfois, c'est vrai que les journalistes posent des questions, mais...
je dis Joker.
Joker. Très bien, non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Voilà. Hein. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, on revient un petit peu à Avignon. On est à quelques jours maintenant d'Avignon. Alors, quel est votre état d'esprit quand on est comme ça à quelques jours avant de partir?
Là, il y a encore beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes et tout. Mais bon, je me replonge dans le texte aussi, que je vais devoir interpréter. Et à ce propos, comme on commémore en ce moment le débarquement, puisqu'on est le 6 juin, les 80 ans du débarquement, c'est extraordinaire. Et donc, je reviens à Marlène, puisque Marlène, c'est quand même celle qui a dit non à Hitler dès 1933, parce qu'elle avait très très bien perçu et senti ce que c'était le nazisme. C'est vous dire l'intelligence, la sensibilité et la lucidité qu'elle a eue. Et donc, du coup, ça lui a valu quand même un contrat. Elle avait un contrat sur sa tête par Hitler, ça les gens ne le savent pas, parce qu'il avait chargé les troupes allemandes de tirer à vue sur Marlène. Et tout le monde connaissait Marlène, c'est une star internationale, tout le monde connaissait Marlène, donc elle était quand même très très en danger. D'ailleurs à un moment elle s'est embourbée un petit peu vers les lignes allemandes, elle est obligée d'être sauvée en pleine nuit par un parachutiste dont elle est tombée éperdument amoureuse évidemment. Mais
un parmi tant d'autres.
Un parmi d'autres, et donc elle a été rapatriée. Mais ce que je voulais vous dire aussi... Je vous parlais en tout début d'émission de son humanité. Et ce qui m'avait frappé, donc dans son abécédaire, j'ai découvert une phrase qui m'a bouleversée. Donc, puisque elle n'était pas du tout d'origine juive, mais elle était horrifiée par le fait que quelqu'un décrète, tiens, ceux-là, cette catégorie de personnes, on va les massacrer, les éradiquer. Mm-hmm. Et c'était quelque chose, je vous dis, moi je suis aussi révoltée et terrifiée de ces choses-là. Et ce qu'elle a écrit dans son abécédaire, c'était très très beau, elle disait, quant aux Juifs, je n'expliquerai pas le lien mystique plus fort que le sang qui m'attache à eux.
Oh, c'est joli ça.
Je trouve que cette phrase, elle veut tout dire.
Mais elle veut tout
superbe.
Dire.
Superbe, exactement. Et de même, elle était aux côtés des alliés pendant 3 ans de guerre. Hein. Elle était sur tous les fronts, en Afrique du Sud, elle était en Groenland, et bien sûr en Europe. Et quand elle était aux côtés des alliés, c'était clair, elle avait choisi son camp. Mmh. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller voir les prisonniers allemands, qui étaient des jeunes hommes qui n'avaient rien demandé.
Qui subissaient. Hein.
Voilà, qui allaient perdre un bras, une jambe, la tête, la vie, tout ça. Mmh. Et elle allait les réconforter, leur chanter des chansons en allemand. Vous vous rendez compte? Oui, ça c'est très beau. Ouais. Et là, il n'y a pas un officier allemand, anglais ou français qui pouvait se permettre de dire « Madame Dietrich, vous vous rendez compte pourquoi vous allez voir les... » Non. Elle savait ce qu'elle faisait, elle le faisait
elle
par
assumait,
pure humanité.
Ouais, bien sûr.
De même que quand elle... Parce que vous savez que Marlène, elle a quand même connu 2 guerres. Elle était adolescente lors de la Première Guerre mondiale.
Ah oui, c'est vrai.
Elle habitait à Weimar, où elle était éduquée, et il y avait un camp de prisonniers, alors français cette fois-ci. Mmh. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que le 14 juillet, elle allait cueillir des petites pâquerettes, des coquelicots et des bleuets, et elle les passait aux prisonniers français à travers les grilles.
Oh, c'est mignon.
Donc,
vous vous rendez compte,
c'est joli,
c'est
extraordinaire.
Tout ce que vous avez été chercher comme information, des investigations qu'on doit faire pour pouvoir mettre, pendant combien dure votre seule en scène? 1h15, 1h20 à peu près?
Oui, c'est ça, exactement.
Mais vous vous rendez compte la matière qu'il faut aller chercher?
Là, c'est très riche, là, il y a beaucoup de choses.
Mais c'est beau, je trouve. Je me demande même parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Cyrielle, mais je me demande même parfois si c'est pas encore mieux que de jouer quand on fait toutes ces recherches et qu'on découvre la personne qu'on va incarner pendant un nombre d'années, parce que c'est une pièce que vous avez déjà jouée et que vous allez donc rejouer là à Avignon du 3 au 21 juillet. Je vous invite tous à aller prendre vos places parce que je pense que vous allez passer un très bon moment avec Cyrielle sur ce joli seul en scène. C'est au Théâtre des Trois. Vous avez l'horaire ou pas?
Oui,
encore?
C'est à 19h.
À 19h. En plus, c'est un horaire après journée. Vous allez boire l'apéro et puis vous allez passer un bon moment avec Marlène Dietrich dans des tenues sublimes.
Et j'irai voir aussi le spectacle de mon ami Antonin.
Antonin.
On joue. Moi, je serai avec ma pièce de théâtre Sauve-toi, la vie t'appelle au Théâtre Notre-Dame tous les jours à 12h45. Le soir à 19h, je serai au Théâtre des 3S.
Il va aller la voir 21 fois.
21 fois.
Alors moi, je termine toujours par une question et c'est pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure quel était votre surnom. Moi, je voudrais savoir ce que vous auriez envie de dire à Sissi la Balafré.
À Sissi la Balafré.
Qu'est-ce que vous lui diriez là, quelques jours d'Avignon et tout, à la petite Sissi Balafré là?
Ah oui, ah, quelle jolie question. Je lui dirais courage. Tiens bon la rampe, tiens bon, et puis surtout, n'oublie pas qu'il n'y a qu'une chose qui importe, c'est d'être en vie. Et ça, c'est déjà le grand cadeau, en vie, ici, maintenant, et de faire partager le plus possible ce cadeau de la vie, d'être là, de pouvoir justement partager des émotions magnifiques, de pouvoir raconter des histoires, parce que c'est vrai que je suis très très privilégiée de pouvoir faire ça, comme nous tous qui allons nous présenter à Avignon, et surtout rester confiant dans la vie et ne pas oublier son cœur. Et dans son cœur, il y a tout, et il y a surtout partager tout l'amour qu'on peut avoir, et c'est ce qui fait le plus de bien aux autres.
Je vous aimais déjà beaucoup, mais je vous aime encore plus, et je vous remercie beaucoup d'être venu. On a passé un très bon moment avec vous. Merci Antonin de nous avoir permis de recevoir Cyrielle. Vous revenez quand vous voulez.
Ah, c'est gentil. Voilà. C'est passé si vite.
Oui, ça passe vite, 3 quarts d'heure. C'est vrai où on est, mais c'est parce qu'on est bien.
À très bientôt avec bonheur.
Et je vous souhaite
plein de
bonnes chances à tous les deux à Avignon. Profitez bien parce que c'est des moments intenses. Et puis vous allez à la rencontre de votre public. Ça, c'est toujours aussi très important dans la vie d'artiste. Donc vous revenez tous les deux quand vous voulez. Merci beaucoup. Marc, tu nous as manqué. Et puis Arnaud, je te remercie et la semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres invités. Au revoir.